Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient. Comme chaque semaine, nous avons rendez-vous avec la rédaction de Politis. Denis Siffer, bonjour.
Bonjour.
Alors cette semaine, Politis fait sa une sur le réveil des gauches. Dans votre édito intitulé « Le piège populiste », vous revenez sur l'affaire de l'hydrochloroquine. Comment analysez-vous cette affaire autour de ce médicament qui a fait polémique ?
Ce qui m'a intéressé dans cette affaire, c'est pas vraiment l'aspect sanitaire, parce que je suis comme beaucoup d'entre vous, sans doute, je n'y entends rien, j'ai pas de revendication de compétences particulières, mais c'est sa dérive politique, parce qu'en réalité, ce qui est très très choquant dans cette histoire, c'est que on a sollicité une audience et des soutiens populaires par des banderoles, par des voitures qui sillonnent des rues de Marseille avec des portraits géants du professeur Raoult, pour juger de la validité d'une molécule. Et je pense que je cite d'ailleurs au début de mon édito une phrase que j'aime beaucoup de Marc Bloch, le grand historien, qui disait « Partisans et adversaires de Robespierre, cessez de vous quereller et dites-nous simplement quel fut réellement Robespierre. » Alors, je ne veux pas remplacer Robespierre par l'hydroxychloroquine, mais on pourrait. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des faits objectifs qu'il faut déjà essayer d'établir avant de se forger une opinion. Et là, on a vu que l'opinion a été sollicitée alors que la réalité objective n'était pas établie. Et c'est ça que je trouve très, très choquant. Et là, on a, à mon avis, une définition, je dirais presque une molécule pure de populisme. Parce que quand on sollicite l'opinion sur la base uniquement de préjugés et de la puissance médiatique qu'on peut déployer pour convaincre les gens, sans établir les faits, on est vraiment dans la définition du populisme.
Alors certains responsables politiques français ont soutenu le professeur Didier Raoult, qui est le promoteur de ce médicament, mais vous rappelez que l'hydrochloroquine a deux autres supporters, Donald Trump et le président brésilien.
Ce sont des supporters qui sont très encombrants, Trump et Bolsonaro. Je dis aussi que ce sont des figures à la fois grotesques et dangereuses du populisme mondialisé. Et donc ça, ce sont effectivement des soutiens qui sont un peu contre-productifs. Mais on est toujours dans ce même débat politique, c'est-à-dire que des politiques, alors au Brésil, aux États-Unis, mais aussi en France, ont vu que Raoult avait réussi son coup d'un point de vue médiatique, c'est-à-dire qu'il avait mobilisé une opinion sur le thème contre les élites, etc. Bon, et ils ont voulu probablement se raccrocher à cette popularité naissante et en profiter un peu. Il y a beaucoup de... Alors, une grande partie de la droite marseillaise, l'établissement de la droite marseillaise, c'est-à-dire le grand paradoxe de Raoult, c'est qu'il se présente à la fois comme un rebelle et qu'en même temps, il est soutenu par tous les députés et toute l'élite politique, disons, de la région PACA. Donc, et pas seulement. Donc là, on a une sorte d'opportunisme politique et qui nous éloigne totalement du débat sanitaire sur est-ce que ce médicament, l'hydroxychloroquine, est efficace ou pas. Bon, alors il semblerait qu'il le soit beaucoup moins que ce que professeur Raoult pensait. Il y a eu cette fameuse étude de la revue Lancet, après d'autres études d'ailleurs, qui concluent à peu près la même chose. Mais bon, moi je dirais que c'est pas mon problème, parce que peut-être a-t-il il a eu en tout cas raison d'essayer, je le dis d'ailleurs. Mais il a peut-être eu tort de s'obstiner, il a surtout eu tort de transférer ce débat sur un terrain qui est un terrain de mobilisation politique autour de sa personne en particulier.
Alors vous évoquez aussi l'alliance entre le médecin Didier Raoult et le philosophe issu de la gauche Michel Onfray, qui est aujourd'hui souverainiste, et vous le qualifiez d'inquiétant.
Oui, je le qualifie d'inquiétant parce que il y a maintenant c'est vraiment la mode dans la communication politique, c'est de se présenter en victime. Alors ça vient de l'extrême droite, c'est vraiment présenter en victime, c'est-à-dire on est bâillonné par les médias, les grands médias ne nous invitent pas, on est vraiment des pestiférés, etc. Bon, et on brise des tabous. Alors ça c'est le grand slogan, on est les briseurs de tabous. Et quand on regarde l'itinéraire de Onfray, voilà quelqu'un qui a quand même son rond de serviette dans les grands médias, comme on dit, qui est là très souvent, qui n'est surtout pas bâillonné, et quel tabou brise-t-il, en l'occurrence avec la revue dont il nous parle, il invite une grande majorité de gens d'extrême droite, toutes les nuances et tout la gamme, disons, des gens d'extrême droite, quelques personnages égarés issus d'une certaine gauche, mais donner la parole à l'extrême droite en disant qu'on brise les tabous, ça me semble assez opportuniste, parce que cette extrême droite, on l'entend quand même beaucoup. Certains se plaignent d'ailleurs qu'on l'entend trop, mais enfin bon, ça fait partie de la démocratie. De là à dire qu'on est un briseur de tabous, qu'on va réinventer le débat, que le débat n'existe pas sans Michel Onfray, vraiment, je trouve que là, on a quelque chose de commun avec professeur Raoult, et qui s'appelle l'ego, qui s'appelle un narcissisme surdimensionné et piégeux, et qui a des effets politiques, parce qu'on est encore une fois dans une forme de populisme.
Et vous revenez enfin dans votre édito sur deux coups de téléphone passés par Emmanuel Macron à Jean-Marie Bigard et Éric Zemmour. Le chef de l'État est tombé dans le piège populiste ?
Alors, je ne sais pas s'il tombe dans le piège, mais en tout cas, j'ai quand même l'impression qu'il cherche lui aussi. Il n'est pas populiste, lui. Tout le monde n'est pas populiste. Et là, il fait acte de populisme, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il voit bien que ces mouvements, ces personnages sont populaires, pas toujours pour de bonnes raisons, mais ils le sont, parce qu'ils ont sollicité l'opinion, etc. Et on a l'impression qu'il a voulu profiter, détourner un peu de leur popularité vers lui-même, d'où la visite au professeur Raoult, qui, quoi qu'il en dise, d'un point de vue symbolique, ressemblait à un appui, alors qu'il ne savait rien de la validité de l'hydroxychloroquine, pas plus que moi d'ailleurs. Et puis Bigard, c'est pareil, je le qualifie un peu de comique poujadiste, mais il est très populaire, indéniablement. Donc là, il lui donne l'assurance que les bars vont rouvrir parce que Bigard le demande. Bon, il y a d'autres corps intermédiaires, si j'ose dire, dans la société, qui permettent d'annoncer ce genre de choses. Donc c'est assez étonnant. Puis le Puy du Fou, c'est pareil, il appelle De Villiers pour lui annoncer que pour accepter que le Puy du Fou, on peut penser que c'est toujours De Villiers qu'il a appelé d'ailleurs, pour que le Puy du Fou va rouvrir, mais il y a d'autres spectacles vivants, pourquoi cette faveur? Là, on a l'impression qu'il y a quand même une sorte d'opportunisme. Quant à Zemmour, c'est assez choquant. Alors Zemmour a été insulté dans la rue, c'est tout à fait dommage. Mais enfin bon, c'est aussi un grand provocateur d'extrême droite, et je ne pense pas que c'était le rôle du président de la République de lui apporter son soutien comme il l'a fait. Ça peut être que mal interprété comme aussi un soutien un peu au discours de Zemmour. Donc on a là une sorte de magma populiste qui est un peu inquiétant et qui crée un climat assez délétère.
Merci Denis Siffer, je rappelle que vous êtes éditorialiste à Politis.
Merci à vous.
C'était Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.